Habiter la France, l'émission de tous les Français présentée par Christophe Bordet sur Radio Territoria.
Habiter la France sans pouvoir aller au cinéma, sans pouvoir aller au théâtre, sans pouvoir aller au concert. Et oui, on en est là, sans pouvoir aller aux expositions également, habiter la France et avoir la désagréable impression de s'appauvrir culturellement et même, je dirais, intellectuellement. Voici l'une des conséquences majeures de la gestion de la Covid-19 et des confinements décidés par le gouvernement. La culture à l'arrêt, professionnels du spectacle en danger, c'est le thème de ce nouveau numéro d'Habiter la France sur Radio Territoria.
Et toi aussi, t'en manques de culture ? Allez, viens, on se fait un retour vers le futur.
Les premiers dates au cinéma, oh, le cœur qui battait la chamade, la séance était à 19h, toi t'arrivais à 15h30 pour être large.
Moi, je vais vous avouer un truc, hein. Les gens chiants me manquent. Ah, sur mon canapé, je me fais chier, c'est trop simple. Tu sais, y a plus ce mec là qui mettait sa vieille pompe que pendant 2h30, ça sentait la chaussette Artengo.
Moi, je vous le dis, le jour où ça réouvre, le Finistère, ils te font trembler l'échelle de Richter.
Mais le pire, c'est les artistes. T'as vu leur story ? C'est un service après-vente.
Salut à tous, j'ai une très bonne nouvelle. Les dates de janvier 2021 ne sont pas annulés, mais reportés à mars 2028. Donc gardez bien vos billets, ils resteront valables. Allez, salut!
Tous les billets sont reportés et une calvitie, ça arrive vite. À tout moment, t'as pris tes places pour Julien Doré. Dans 2 ans, il ressemble à Pascal Obispo. Complicado!
Bon, allez, la bise.
Ouais, la bise. Voilà, il s'appelle Marty. Il est très drôle et vous pouvez le retrouver, évidemment, sur les réseaux sociaux. Paris sera bientôt une fête. C'est ce que promet la mairie de la capitale, avec des événements hors les murs, en plein air, tout cet été. Preuve qu'il n'y aura rien de moins certain, en fait, que la réouverture des lieux de culture l'été prochain. Oui, il n'y a rien de moins certain. Il faut quand même le reconnaître. Pour dire stop, les théâtres, les cinémas, les salles d'exposition ne sont pas plus dangereuses que les grandes surfaces. Il faut les rouvrir avec un protocole sanitaire adapté. Eh bien, j'ai des invités autour de moi et je vais vous les présenter. Tout d'abord, pour évoquer tout ça, évidemment, ma consoeur, Anne-Solange-Muis, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Christophe.
Merci beaucoup d'être là. Nos invités, vous l'entendrez, Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, dirige l'Institut du monde arabe à Paris, institut fermé et incertitude sur une réouverture le 15 mai, pourtant promise par Emmanuel Macron. Également avec nous à distance, Éric Carrière, des Chevaliers du Fiel, que l'on adore. Merci beaucoup d'être là. Je sais qu'il nous entend, il ne nous voit pas. Je ne sais pas s'il...
Bonjour.
Ah ben voilà, il est là. Éric est là parce que tout à l'heure, il était dans son jardin avec le chien. Vous ne l'avez pas entendu, mais ça a aboyé fort.
Hein.
Ah, c'est le chien du voisin, d'accord. Bon, ben, très bien. Vous allez nous parler de la situation des théâtres à Toulouse. Vous êtes propriétaire, je le rappelle, et vos employés sont en chômage partiel. Vous allez évoquer tout ça avec nous dans quelques instants. En plateau, Mathieu Crochemort du SNAM CGT Spectacle. Ce sont les musiciens
hein,
qui est avec nous. Vous jouez quoi, vous, comme instrument ?
Je suis guitariste.
Guitariste. Vous êtes venu avec votre guitare ?
Non, pas cette fois.
Bon, allez. Tant pis pour lui, on ne lui donne pas la parole. Ah ben non, mais il ne veut pas jouer. Bon, il n'a pas son instrument. Sophie Anne Le Sen est également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là, coprésidente de l'AFA, actrice acteur de France associée. Vous allez nous parler évidemment des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui avec ces confinements. Et ça dure maintenant depuis plus d'un an, je le rappelle. Pour se mettre dans l'ambiance, si je puis dire, nous sommes allés avec Élodie Rabel promener notre micro au théâtre de l'Odéon à Paris, occupé depuis plusieurs semaines. Reportage auprès d'artistes en grande détresse, c'est parti.
Si je devais mourir 100 fois, c'est là que je voudrais mourir.
Là, sur le balcon terrasse du théâtre de l'Odéon, Mathieu, comédien, déclame ses vers de Pablo Neruda devant un parterre d'autres intermittents du spectacle qui, comme lui, n'ont plus de travail depuis un an.
Il se trouve que les années qui ont précédé le Covid étaient des années avec beaucoup de travail, de plus en plus. Et puis, depuis une année sans travail, voilà, la frontière est nette.
Denis Gravouille, délégué général de la CGT Spectacle, dénonce la destruction de nombreux emplois depuis le début du premier confinement.
On a presque un quart des emplois des salariés intermittents du spectacle, des artistes et des techniciens, principalement dans le spectacle vivant, mais dans une certaine mesure aussi dans le cinéma, qui ont été détruits et pas compensés par l'activité partielle. Les professionnels sont dans une situation extrêmement difficile. C'est des gens qui sont en train de crever de faim. Enfin, on a des témoignages de gens qui vendent leur appartement, qui retournent vivre à 40 ans chez leurs parents, mettant de côté leur vie dans des villes chères.
C'est justement le cas de Déborah. Cette trapéziste, faute de revenus, est forcée de quitter son logement.
Je pense que j'ai une perte de salaire de... quand même, ouais, de 400 ou 500 euros par mois. Je vais vivre en camion et voir un peu si je trouve un endroit chouette et surtout pas cher où me poser après.
Mais avant de partir à bord de son camion, Déborah et ses camarades continuent d'occuper le théâtre parisien dans l'espoir de faire réagir le gouvernement.
Voilà, reportage réalisé au théâtre de l'Odéon à Paris par Élodie Rabel. Pour info, le spectacle vivant a perdu 90% de son chiffre d'affaires entre 2019 et 2020, la musique 76%, et le tableau qui se dessine pour 2021 est tout aussi sombre, malheureusement. Anne Solange, ça vous inspire quoi ce que l'on vient d'entendre, tiens ?
Eh bien, il y a un proverbe africain qui dit « Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures ». Et je crois que c'est tout à fait ça.
Ça en dit long, ce proverbe.
Ouais. Aujourd'hui, on a perdu nos rayures et j'ai envie de dire qu'on a perdu la lumière de nos villes et de nos territoires parce que sans art, sans culture, sans nourriture pour alimenter l'espoir dans nos quotidiens, qu'est-ce qui nous reste ? Je ne crois pas que l'écran télé soit l'ouverture au monde qu'il nous faut.
Est-ce que vous avez l'impression, vous, je le disais un peu tout à l'heure en introduction, que intellectuellement vous vous appauvrissez parce que vous ne pouvez plus aller au théâtre, au concert, etc. Oui.
C'est évident. On a une ville sans salle de spectacle, sans cinéma, sans théâtre, sans aucune ouverture au monde, aucune ouverture au voyage, à l'évasion. On n'a pas de bar, on n'a pas de terrasse, pas de convivialité. À quoi ça sert de vivre dans une ville si on n'a pas l'art pour se nourrir ? À quoi ça sert, franchement ?
Sofiane Le Sen et puis Mathieu Crochemort. Sofiane, pour commencer, vous venez d'entendre ce reportage poignant quand même, parce qu'on a des gens qui nous disent à Odéon, voilà, c'est terminé, on va aller vivre dans un camion parce qu'on n'a plus les moyens de payer un loyer, etc. Ça vous inspire quoi, tout d'abord, en quelques mots ?
Ça m'inspire la réalité, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a occupé l'Odéon avec les camarades. Donc, ces témoignages-là, on les connaît. Aujourd'hui, on parle d'une vraie détresse sociale. C'est-à-dire que, contrairement à un discours qu'on entend qui est parce qu'on nous aurait accordé l'année blanche, la fameuse année blanche des intermittents du spectacle, on est sauvés, enfin beaucoup d'artistes sont sauvés.
Année blanche, ça voulait dire quoi concrètement ?
Ça voulait dire en fait que pendant un an à peu près, on n'était plus obligé de remplir les conditions d'accès à l'intermittence si on en bénéficiait déjà, donc de ce régime spécifique. Voilà, donc en gros, on nous accordait nos indemnités, quel que soit le travail que nous faisions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme il n'y a plus de travail, avant, nous avions certes des indemnités, mais aussi un complément de salaire que nous n'avons plus. Donc déjà, on est réduit à notre indemnisation. Et l'autre, la vraie détresse, pire encore, c'est tous les gens qui n'étaient pas indemnisés. Moi, je connais des
histoires. Eux, ils n'ont rien.
Ouais. Et puis, ils n'ont pas de petit boulot non plus. C'est-à-dire, voilà, et tous ceux qui...
Donc une précarité qui s'est accentuée, là.
Moi, je peux raconter, par exemple, quelqu'un de très proche qui n'était plus intermittent, enfin indemnisé par l'intermittence du spectacle au moment du premier confinement, qui attendait le Festival d'Avignon où il jouait deux spectacles, qui ensuite devait enchaîner sur une tournée et tout ça, et qui depuis un an et demi ne touche plus rien.
Et comment on fait pour vivre ? Comment il fait là, cette personne ?
Il emprunte à son entourage. Heureusement qu'il a quelques amis. C'est le retour à la famille. C'est ça aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'à 50 ans, on a envie de demander à ses parents de vous faire vivre ?
Psychologiquement, c'est dur. Oui, c'est vrai.
Quand on les a pas, comment ils font ?
Ben voilà, donc ses amis plus fortunés. Enfin voilà, c'est... parce qu'il y a, alors il peut y avoir un peu d'économie. Enfin, on peut imaginer qu'elles sont pas non plus... On n'est pas des métiers le salaire moyen est très élevé, donc voilà, c'est déjà des métiers.
Ou il faut être une superstar et à ce moment-là avoir un cachet phénoménal, évidemment. Ou bien alors, il y a beaucoup de comédiens. Vous êtes comédienne, vous, par exemple.
Moi, je suis comédienne, oui.
Voilà, qui font des pièces de théâtre qui ne touchent pas des milliers et des cents.
Ben non, voilà. Et puis, enfin, voilà, c'est quand même des salaires assez bas. Je ne pense pas qu'à entre 1200 et 1500, on peut dire à quelqu'un qu'il vit richement.
Ouais. Mathieu Crochemort, comment vous réagissez à ce que vous avez entendu là ?
Bah moi, c'est pareil, je ne suis pas du tout surpris, dans la mesure où bon, moi, je fais partie aussi des occupants de l'Odéon, donc on connaît cette réalité-là, on la vit en fait, c'est-à-dire la perte des revenus, la perte des salaires qu'on n'a pas touchés, puisqu'on n'a pas pu faire de spectacle, elle est flagrante et tout le monde la ressent, puisqu'on a, on a presque pas pu jouer depuis un an, donc voilà. Ensuite, certains s'en sortent comme ils peuvent, d'autres plus du tout. On en est là, quoi, à l'heure d'aujourd'hui. Puis, les chiffres qui arrivent, là, on a des données de l'UNEDIC qui sont tombées il n'y a pas très longtemps.
Oui.
Par exemple, nous, quand on regarde ces chiffres, c'est dans l'état actuel des choses. Il y a 22% des gens au 1er septembre 2021 qui vont perdre complètement leurs droits. S'il n'y a pas de prolongation, si on ne va pas au-delà de l'année blanche, c'est-à-dire nous, on réclame une deuxième année blanche.
Parmi les artistes, donc. Hein,
ouais, oui, parmi les gens qui sont indemnisés actuellement. Donc voilà, les chiffres, là, ils disent qu'il n'y a que 3% des gens qui vont maintenir leur niveau de rémunération, leur allocation au niveau où elle est aujourd'hui. Et dans les 75% restants, il y a 75% des gens qui garderont des allocations ouvertes qui vont être à l'allocation plancher. Donc, c'est-à-dire, ça fait encore des baisses de revenus, là, en prévision.
C'est quoi l'allocation plancher ? Combien, à peu près ?
Il me semble autour de 45 euros par jour. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais voilà, quoi. Donc, c'est encore des pertes de revenus qui vont s'ajouter au témoignage que vous aviez tout à l'heure, qui dit que déjà, puisqu'on ne peut plus jouer, ça va mal. Mais là, dans l'état actuel des choses, si il n'y a pas d'autres mesures qui sont prises pour une deuxième année blanche ou des mesures pour des aides pour relancer le secteur et notamment des aides à l'emploi qu'on réclame, qu'on appelle de nos voeux, ça va être encore pire à partir de septembre.
Ouais. J'ai une question à vous poser, je vais me faire l'avocat du diable, mais il se trouve que c'est quelque chose que j'entends. Alors c'est vrai que c'est un peu facile, en général on se dit, quand on entend ça, la personne qui le dit en tout cas ne vit pas la situation, donc c'est facile pour elle de dire ça. Mais c'est vrai qu'on entend des gens dire, mais attendez, si les artistes aujourd'hui ne peuvent pas y arriver parce que... ils n'ont pas de scène, ils n'ont pas de concert, etc. Ils ont qu'à faire d'autres métiers, ils ont qu'à changer de métier. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut être agile, savoir se former à d'autres métiers, changer de métier, etc. Vous répondez quoi à ça, Anne-Sophie, peut-être pour commencer ?
Sofiane, pardon. oui, en fait, moi, je répondrais d'une part que des métiers passion, ça existe et que c'est important de les préserver. Que c'est aussi ce qui fait vivre une société. Que donc ce sont
vous l'avez déjà entendu, ça, dans votre entourage ou... ouais.
Bien sûr. Moi, je dirais aussi que nous avons un métier qui est déjà très diversifié. C'est-à-dire que nous, comédiens, on est à la fois sur des plateaux de tournage, à la fois sur des scènes de théâtre, à la fois on fait des voix, à la fois on va dans les entreprises pour former, à la fois on fait des cours de théâtre dans les écoles. Donc des choses, des diversifications, on en fait. Je dirais que... proposer la seule reconversion aujourd'hui, c'est un signe de faiblesse. C'est-à-dire, c'est de dire on n'a pas besoin de vous.
Et ouais. c'est un vous peu... le prenez comme ça, mais vous avez raison. Ça peut être entendu de cette manière-là. Vous avez raison, évidemment.
Bah, non essentiel, ça ne voulait pas dire un petit peu ça aussi.
C'est vrai. Mathieu ?
Voilà, moi, j'allais répondre ça. Moi, j'allais dire, on ne peut pas dire aux gens du spectacle et de la culture, vous êtes non essentiel. Puis ensuite dire bah, on n'en peut plus de plus avoir de spectacle, de plus avoir de culture, on se sent asséché intellectuellement. Puis ensuite dire aux gens bah, il faut vous reconvertir parce que voilà, on ne sait pas.
Il n'y a pas de boulot dans votre secteur.
On déciderait qu'on n'a plus besoin de vous. Mais en l'occurrence, nous, on ne pense pas qu'il n'y a pas de boulot dans notre secteur. En l'occurrence, il y a du travail dans notre secteur. Puisque le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que l'arrêt des spectacles, l'arrêt de la culture assèche et appauvrit les esprits. Après, il y a une vraie discussion sur le choix de société qu'on veut. Est-ce qu'on veut une société où les gens ne réfléchissent plus, où la culture est déclarée non essentielle et où on dit aux gens « changez de secteur d'activité » parce qu'on déclare qu'il n'y a plus d'activité.
C'est très intéressant, cette histoire de
nous,
culture, secteur qui pourrait être déclaré, enfin qui est déclaré comme non essentiel puisque c'est fermé, donc non essentiel. Il se trouve que j'étais à Bordeaux ces dernières heures et que j'ai été subjugué par les affiches que j'ai vues dans les panneaux publicitaires de la mairie de Bordeaux, qui sont des affiches assez surprenantes, posant la question de savoir si être artiste, c'est un métier. Et donc, vous pouvez répondre sur le site de la mairie de Bordeaux. Voilà. Bon, donc, c'est assez surprenant, d'autant plus qu'on est Alors, voilà, dans une municipalité écologiste, on ne savait pas que les écologistes étaient contre la culture. En tout cas, on n'avait pas compris ça de cette manière-là. Comment vous avez ressenti ces affiches bordelaises, là, complètement étonnantes, ce sondage, grandeur nature
Bon, personnellement, moi, je trouvais ça scandaleux, quoi, à l'heure où justement, tout le monde réclame de la culture dans le pays parce que se lever, aller travailler et dormir, beaucoup de monde se rend compte que ce n'est pas suffisant. Mmh. À l'heure où il y a une mobilisation depuis le 4 mars à l'Odéon, puis partout en France, parce qu'il y a quand même 102 théâtres occupés en France, enfin plus de 100 théâtres occupés, ça évolue tous les jours. Donc je veux dire, ce n'est pas la mobilisation de l'Odéon, cette mobilisation est partie de l'Odéon. Mais
oui, elle est nationale aujourd'hui.
Elle est nationale partout en France, qui montre bien qu'il y a un réel mal-être dans tout le pays, de réels besoins, des vraies revendications communes. Donc voilà, à ce moment-là, faire une campagne de com' sur cet axe-là, je ne comprends pas. Je comprends pas le but de la municipalité de Bordeaux. Voilà.
Donc, oui, on se demande à quoi ça sert.
Peut-être
réellement,
qu'ils vont changer.
Franchement,
c'est du cynisme mal à propos. Je pense que dans d'autres circonstances, ça aurait pu peut-être faire rire. Là, c'est vraiment. Après, ce qui est drôle, c'est que c'est lancé par des personnes qui prônent aussi un ancrage dans la ville et dans la vie, et qui tout à coup s'avèrent complètement hors sol, quoi. Donc, c'est toujours intéressant.
Dans un instant, on va aller du côté de Toulouse. On parlait de Bordeaux, on va aller du côté de Toulouse avec Éric Carrière des Chevaliers du Fiel qui est avec nous. Anne Solange, vous aviez encore une question à poser, je crois.
Oui, alors un peu dans ce même sens, c'est-à-dire de façon très naïve, si on ne peut plus intégrer le spectacle, enfin, je pense qu'il y a quand même une adhésion collective à la culture. Je crois que tous les Français ont envie quand même de revoir la culture. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une culture qui revient dans la rue? C'est-à-dire, je vois par exemple, le hip-hop a fait l'inverse. Le hip-hop était un art de rue et il s'est mis sur la scène. Pourquoi on ne prendrait pas la scène pour la remettre sur la rue? Je veux dire, à l'époque de Molière, on le voyait bien, on montait des petites estrades. Et avec une
encore faut-il en avoir l'autorisation.
Oui, mais l'occupation de l'espace public en petits groupes, d'une certaine façon, aujourd'hui, on
mais
pourrait
regardez
imaginer,
ce qui se passe devant le théâtre de l'Odéon. Je pense que vous allez pouvoir en parler, Mathieu. Mais il y a eu des concerts devant le théâtre de l'Odéon qui étaient liés à cette mobilisation dont on parle depuis le début de l'émission. Et ces concerts sont aujourd'hui interdits, par exemple.
Alors, c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont peut-être plus visibles.
Non, mais bon, alors est-ce qu'il faut faire redescendre la culture dans la rue pour la rendre accessible à tous et évidemment à toutes? Parce qu'il y a ce besoin, on a faim de culture, quoi.
Non, il y a deux questions. Il y a la question de ce qui se passe à l'Odéon en ce moment,
oui,
de la position de la préfecture de police de Paris qui fait tout pour éteindre cette mobilisation, empêcher les prises de parole, minimiser les choses. Parce que ça les embête probablement que les gens s'expriment. Par des discours politiques.
Mais ce que vous dit aussi la préfecture, c'est que ce sont des habitants qui ne sont pas d'accord avec ce...
Non, là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça. Mais il y a 15 jours, c'était parce que, soi-disant, c'était devenu un rassemblement, une manifestation culturelle, parce qu'il y avait un orchestre qui jouait, alors que nous, on fait des rassemblements sociaux et politiques avec des prises de parole où on a des revendications. Bref, la préfecture de police joue un quadruple jeu pour essayer d'arriver à ses fins. Ce qui ne marche pas, puisque la mobilisation est sincère et on est tous conscients qu'on n'est pas en train d'organiser des concerts devant la place de l'Odéon. C'est faux. Après, sur la question de se réapproprier la rue, retourner dans la rue, faire des spectacles, Nous, on propose un plan de relance du secteur d'activité, notamment en finançant de l'emploi artistique et en disant que il faut mettre des conditions en place pour la réouverture quand c'est possible avec des jauges et en respect des mesures sanitaires. On dit exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire que les spectacles doivent se faire dans la rue quand c'est possible et partout dans les... Puisque les grandes salles ne pourront pas réouvrir, les jauges au-dessus de 5000 ne seront pas autorisées. Alors il faut faire plein de petits spectacles dans plein de petits lieux, ce qui entraîne des problèmes de rentabilité, même si j'aime pas ce mot, de pouvoir assumer le coût plateau, le coût des spectacles et tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on propose un plan d'aide de financement de l'emploi artistique et un plan d'aide pour la reprise qui permettra notamment de payer des salaires pour les artistes, de limiter la précarité qu'on est en train de vivre, de faire repartir le secteur et qui permet aussi de financer les caisses sociales, parce que c'est un vrai problème qu'on n'a pas évoqué pour
la suite. Oui, bien sûr.
On a un vrai problème des caisses sociales qui sont en train de se vider. Mmh. Et ça, c'est une vraie problématique pour nous, parce que les caisses sociales, ce sont nos caisses et ce sont nos droits.
Alors,
donc voilà, on a des propositions pour ça.
On me disait dans l'oreillette il y a quelques instants, mon réalisateur Pierre-Yves Falson me faisait remarquer qu'à partir du moment où on peut autoriser une exposition dans la rue comme le chat de Gueuluc sur les Champs-Élysées, pourquoi on ne pourrait pas autoriser le reste? Ben oui, mais les chats en question, ils sont en fonte et on va dire qu'ils ne font pas beaucoup de bruit. Et quand on va les visiter...
Pour y avoir été il y a deux jours, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde.
Ah ben il y a beaucoup de monde parce qu'il y a une fan culture. Une fois de plus, moi, c'était ma première exposition depuis 6 mois.
Exactement, mais
sauf qu'on est tous collés. Exemple.
Ah, allons-y.
Les messes sont autorisées aujourd'hui, si je m'abuse dans le pays.
Et alors
Bon, les expositions, c'est une chose, mais les messes se font en public avec des gens réunis
avec
dans un même lieu.
Avec des
laïcs, n'oublions pas.
Comme on raconte la vie de Jésus à peu près 50 ou 100 personnes, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas raconter la vie de Tartuffe.
Par rapport à ce que vous dites et aux jauges qui pourraient être retenu pour la réouverture. Pour les théâtres, j'ai vu que c'était 66% à peu près des places qui pourraient être occupées. Ça fait quand même un manque à gagner au final, parce qu'il manquera beaucoup de monde dans les salles, inévitablement. Il faut bien rouvrir d'une manière ou d'une autre, de toute façon.
Non, mais c'est pour ça qu'on demande, on dit que le gouvernement a apporté des aides à différents secteurs culturels. On veut des aides à différents secteurs de l'économie. On veut des aides pour le secteur culturel. On est le deuxième secteur le plus impacté après l'aéronautique. C'est comparable au secteur du tourisme, de l'hôtellerie-restauration. Les aides ne sont pas du tout au niveau d'un secteur à l'autre, mais en termes de moyens mis et d'argent disponible pour relancer les choses, c'est pas du tout comparable.
Tout en parlant de prestige de la culture française, tout en parlant d'exception culturelle, d'attachement. Donc il y a un moment, il faut des preuves d'amour.
Il faut mettre les actes en phase avec les déclarations.
Exactement.
C'est ça le truc.
Et pour juste sur l'histoire de rouvrir les lieux, d'abord du théâtre de rue, ça a toujours existé. Il y a beaucoup de compagnies qui en font. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas s'exprimer. Nous, on a le syndicat des cirques de création a proposé de mettre à disposition 100 chapiteaux, un par département, pour pouvoir désengorger les programmations, sans réponse. Nous, on a proposé la création de lieux éphémères. On a proposé de faire de tout lieu théâtre. Et sans réponse, même avec des réponses un peu curieuses, disant, mais est-ce que les gens viendront ? Voilà, quand ça vient de la... du ministère, c'est un petit peu compliqué à entendre. Donc il y a vraiment un double discours qui est très, très alarmant. Et la vraie question aussi, c'est parce que ce n'est pas que de la culture. La culture, on pourrait dire qu'on la voit sur l'écran. Mais la réalité, c'est l'échange. C'est l'interactivité. Il va falloir un moment rompre cet isolement.
C'est un tout. C'est un tout, absolument. Que j'eusse un si lâche destin, une âme si traîtresse, Éric Carrière.
Rater une vocation.
Oui, j'aurais pu jouer aussi.
Embauché.
Éric Carrière, des Chevaliers du Fiel, est avec nous depuis Toulouse. Alors, je vais vous donner la parole, mais avant, je ne résiste pas à la tentation. Les Chevaliers Éric et Francis, sur la vaccination, ça donne ça.
Quoi ? Comment ? Un vaccin contre quoi ? Contre le coronavirus ? Je ne pas. Attendez, le vaccin contre le coronavirus, c'est pour les gens qui ont des choses à se reprocher. Ceux qui font des saloperies, des cochonneries, qui se touchent, qui se tripotent, qui s'embrassent, qui se mettent des langues et tout. Non, moi j'en veux pas. Mon mari est mort. Je n'ai pas d'enfants, j'ai pas d'animaux, j'ai rien. Si, j'ai une vieille chouette. Une chouette empaillée. Et elle et moi, on ne se fera pas vacciner. Maintenant, on ne se fera pas vacciner. On n'en veut pas. On n'en veut pas du vaccin.
Non, je ne compte pas le faire. Fais pas pour l'instant, quoi. C'est-à-dire que j'ai un peu peur, j'ai pas tellement confiance. Oui. Moi, je veux bien le faire, le vaccin contre le coronavirus, mais le jour où il n'y aura plus la maladie. Comme ça, on sera sûr que ça marche.
Le vaccin contre le coronavirus ? Ah non, moi, je n'en ai pas besoin. Ben, non, parce que les fringues, je les achète en ligne. La bouffe, c'est pareil, je me fais livrer. Ben, les amis, c'est les jeux en réseau. Ouais, ouais. Ah ben pour le sexe, il y a les films de cul. La chusteuse bite en bois et fente en carton.
Bon, voilà, des Chevaliers du Fiel, hein, comme on les aime dans le texte, bien évidemment. Non, mais c'est vrai que c'est forcément poussé et exagéré. mais que quand on regarde les chaînes d'infos en continu, on a presque l'impression de voir ces micro-trottoirs des Chevaliers du Fiel. Voilà. Non, mais c'est vrai.
Tout le monde en parle, personne n'y connaît rien, quoi, en gros.
Voilà, ouais, exactement. Mais... Bon, on va parler culture, et là, tu t'y connais quand même, hein, Eric, donc
oui,
c'est plutôt pas mal.
Comment dire, nous, on n'a pas... je sais pas, depuis toujours, on s'est débrouillé sans rien, sans aide, sans subvention, sans rien. Et là, il y a ça qui arrive. Et on n'a pas une vision romantique et poétique de la chose à dire... Faisons du théâtre dehors, soyons des artistes, je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Nous, on a toujours lié notre métier au fait qu'on en vivait, qu'on faisait vivre des gens avec ce qu'on faisait, qu'on faisait plaisir à des gens, et qu'il y a une économie avec ça. Donc, on ne se sent pas du tout. Enfin, on se sent solidaire de tous les artistes, de tous les techniciens, évidemment, qui en chient et tout ça, mais on ne se sent pas du tout concerné par cette espèce de démarche. Par exemple, l'histoire de faire des trucs virtuels, en streaming, je sais pas quoi. Mais non, c'est comme si on disait à des gens, vous avez qu'à aller à la chasse et ça sera pas des vrais animaux. Il n'y a pas de chasse, c'est à vous chasser à la télé. Mais non, soit tu n'aimes pas la chasse et tu vas pas, et tu as raison. Soit tu es chasseur et tu es chasseur, il faut assumer. Donc, tout ce discours-là, là, sur ces gens qui en font un espèce de message plus ou moins sociopolitico.
Non, mais l'idée, c'était de trouver des solutions. Et c'est vrai que ce n'est pas simple vu la situation. Par exemple, non, mais Eric, toi, par exemple, depuis. On peut se tutoyer, on se connaît depuis longtemps pour ne rien vous cacher. Très, très concrètement, depuis un an, pas de tournée, pas de spectacle, rien.
Pas de tournée, c'est 52 000 places remboursées. C'est. 34 salariés au chômage partiel ou chômage technique, on l'appelle. C'est un restaurant fermé, 3 théâtres, une salle de musique et 0 tournée. Donc, alors il y a 2 solutions par rapport à ça. Soit on peut dire c'est la faute à. Alors on va trouver, selon qu'on soit de quel parti on est, on va trouver le responsable. En fait, il y a une situation X qui fait que tout le monde galère et. Par contre, nous et moi, personnellement, je ne suis pas pour des solutions de remplacement à moitié, parce que nous, notre métier n'est pas un hobby. Et moi, quand j'entends parler certaines personnes de dire on va faire du théâtre dehors gratuit pour que le théâtre existe, pour moi, ce sont des femmes ou des hommes de femmes riches qui font un hobby. Et nous, on ne fait pas un hobby, on fait un métier avec des gens qui payent leur maison, qui élèvent leurs enfants en faisant leur métier, et on en fait partie. Et voilà.
En tant qu'artiste, Eric, comment vous vivez le fait ? Alors, vous faites de la télé, vous, heureusement, parce que ça vous aide quand même beaucoup, tous les deux, avec Francis. Mais en tant qu'artiste, le fait de ne pas pouvoir monter sur scène, de ne pas pouvoir faire son job, son boulot, comment toi, tu le vis ?
C'est dramatique. Ça fait un an avec Francis. Franchement, nous, depuis 20 ans, on monte 200 fois par an sur scène. À l'époque, on y montait pour pas beaucoup d'argent et après pour mieux. Mais en tous les cas, on montait sur scène depuis 20 ans, tous les ans. Et depuis un an, on est monté qu'une fois sur scène pour faire un show pour la télé. Et évidemment que c'est totalement dramatique. Après, nous, on n'est pas tellement pour des demi-solutions.
Oui.
Parce que les gens, s'ils étaient vraiment producteurs comme nous, à savoir que tu mets ton argent... pour que le théâtre il existe, tu mets ton argent pour payer les techniciens, tu mets ton argent pour inventer un spectacle, tu mets ton argent tout le temps. Tu peux pas dire on va jouer avec une demi-jauge et ça va être vachement bien. On va jouer dehors, ça va être hyper cool. Mais
c'est ce qui risque de se passer. C'est-à-dire qu'à la reprise, si le 15 mai...
Mais
c'est ce qui risque de se passer. Ou on va dire au théâtre, pas plus de 50%, au cinéma, pas plus de 50%, que sais-je.
Mais va mourir, c'est comme si toi, on te dit, tu fais une émission de radio, tu vas faire la même émission et tu vas être payé à moitié. Tu vas dire, mais comment je fais, moi, pour payer mon loyer, nourrir ma femme, mes enfants, je ne sais pas quoi. Nous, on a un théâtre à Avignon qui s'appelle Le Paris, il y a 3 salles. On produit, parce que contrairement à ce qu'il a pu se dire, on ne loue pas les salles pour la plupart, on produit les spectacles, c'est-à-dire on prend le risque. Mais l'économie de ça, elle marche. Si tu as 6 spectacles par jour, par salle, c'est-à-dire 18 spectacles par jour, tu as une chance de gagner ta vie. Si on te dit c'est la moitié et que toutes les deux heures, il faut tous virer pour désinfecter, il faut être préfet ou technocrate ou alors bobo avec un bon salaire pour penser ça, parce que ça n'existe pas.
Alors après, si je peux me permettre, l'art de rue, pour mettre les pieds dans le plat, l'art de rue, c'est aussi un moyen de rendre accessible l'art à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un billet pour entrer dans une salle de spectacle. C'est peut-être des trucs de... Oui, mais...
Baba Bobo.
Donc, ça n'avait rien à voir avec la réalité de l'art.
Non, c'est faux. Je suis dans la culture et je...
Oui, vous êtes dans la culture, mais je suis sûr que vous ne vivez pas de ça pour dire ça.
On va pas s'engueuler. C'est pas le lieu. Non, mais après, c'est vrai que. On peut dire les choses, évidemment, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire par là, pour aller dans le sens d'Anne Solange, et là, ce n'est pas une question liée au Chevalier du Fiel, c'est que quand tu vas voir un concert, par exemple, d'une star à Bercy, et qu'on te dit c'est 150 euros la place, tu te dis c'est pas pour tout le monde, c'est pas possible.
Et puis si le hip-hop n'avait pas existé dans la rue au départ, il n'aurait jamais été dans la salle, il n'aurait jamais été les spectacles le plus importés de France à l'étranger.
Nous on a une salle de musique à Toulouse qui fait 500 places et qui programme 4 spectacles par jour, par semaine dans l'année. Et des spectacles de hip-hop, on en a plein.
Ah oui, mais ils sont nés où à l'origine?
Et ces gens-là ne... Là, vous parlez du Moyen-Âge de l'art. D'accord. C'est comme de dire, à l'époque de Molière, ils allaient avec des chevaux.
Et ils se passaient
un mois et demi entre chaque représentation. Non, mais c'est insupportable. C'est presque plus insupportable que les épidémiologistes et les infectiologues qui nous...
Bon, tarent. On va pas vous mettre d'accord, mais c'était important d'entendre tout le monde. Donc voilà, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien.
Dès qu'on est gênant, on fait court.
Oh ben non, on fait pas court, là. Tu es là, il n'y a pas de souci.
Les compagnies d'art de rue seront contentes d'apprendre qu'ils ne sont pas des artistes.
Ils sont des bobos. Théâtres,
et on produit 50 zéniths par an. On a 35 salariés. On ne parle pas d'un hobby.
La vérité, c'est que tu te mets en danger. Oui, tu te mets en danger. Mais c'est vrai, vous vous mettez en danger tous les deux avec Francis, financièrement déjà.
On est plus qu'en danger. Si tu as déjà remboursé 50 000 places que tu as vendues, eh bien nous, c'est ça qu'on a fait. Donc, si tu veux, on a un mal fou à discuter avec des gens qui parlent de passe-temps, de hobby et de théorie. On n'est pas dans la théorie, on n'est pas à faire des spectacles dehors en disant « Ah oui, il faut que ça existe, c'est trop génial, Martine, mais non, tu vas mourir. » Nous, c'est un job. On a des gens à payer, des théâtres à payer. Je ne vous raconte même pas comment ça se passe. Par exemple, nous à Toulouse, on a une salle qui s'appelle le Rex. Il y a des concerts, 5 par semaine. On vient d'investir 700 000 euros de travaux pour insonoriser et faire une super belle salle pour les musiciens. D'accord ? Les travaux, ils sont finis depuis fin décembre. Et évidemment, la salle n'est pas ouverte, on n'a pas le droit et on n'a aucune visibilité. Et on paye 7500 balles de loyer par mois aux propriétaires des murs. Et où est la théorie du hobby, il faudrait vraiment, il n'y a qu'à... Mais non, il n'y a pas ça. Il n'y a que nous, on est en train juste de crever avec nos trucs. Et le reste, c'est de la théorie, c'est des salons de thé pour nous.
Je vais faire réagir.
Je veux bien dire un mot quand même.
Alors, un mot rapidement de Mathieu.
Je suis très content d'apprendre qu'il y a des gens qui investissent dans la culture et dans le spectacle aujourd'hui. On sait aussi par ailleurs qu'il y a des aides qui sont versées aux structures via, par exemple, le CNM, puisque c'est vous parlez d'une salle de musique. Ouais. Donc voilà, il y a aussi des aides qui vont au secteur, il y a des aides qui vont aux structures, il y a des aides qui vont aux salles en ce moment. Faut dire toutes les choses comme elles sont. Ensuite, les gens qui sont des compagnies d'art de rue ne sont pas moins des artistes que vous. Les gens qui ont des petites compagnies ne sont pas moins des artistes que les gens qui ont des grosses compagnies ou qui gèrent des grandes salles.
Évidemment.
Voilà, non, mais c'était donc, pas là-dessus qu'il disait ça.
Il n'y a pas de bobo selon les niveaux des salles et tout ça. Voilà, moi, je suis un peu embêté d'entendre ça quand même. Et ensuite, voilà, moi, je pense que la seule manière qu'on a de se sortir de ce marasme et de cette crise Covid-19, c'est d'être solidaire parmi les gens qui font la culture à tous les niveaux que ce soit, y compris les gens qui ont des compagnies avec les gens qui sont les salariés du secteur. Parce que pour parler des problèmes que rencontrent les salariés, nous, on a peut-être pas de salle et de place à rembourser, mais on n'a plus de concerts et puis on a un manque à gagner énorme. Et on n'a aucune finance d'avance pour la plupart d'entre nous, puisqu'on était déjà dans une précarité assez importante. Donc voilà, nous, ce qu'on demande, c'est que dans le plan de relance soit pris en compte tout ça, y compris des aides à l'emploi. Et c'est ce qui manque cruellement dans toutes les aides qui sont versées par le CNM aujourd'hui.
Alors, Eric, en deux mots, est-ce que toi, tu as reçu des aides pour ton théâtre ? Et puis, est-ce que tu es d'accord sur les salariés ? Parce que c'est vrai que...
Je n'ai pas eu le temps de finir mon discours.
Vas-y, je t'en prie.
Depuis exactement 13 mois, plus personne chez nous ne gagne de l'argent, mais grâce aux aides qui existent tant sur les chômeurs que sur les entrées, les pertes d'entrées, non seulement... on ne gagne plus d'argent, soit, mais on ne peut pas dire qu'on en perde beaucoup. N'empêche que, là je parle pour plein de gens, c'est-à-dire la majorité des gens qui ont acheté des théâtres, qui ont acheté des salles de concert, qui ont investi sur des spectacles en mettant leur avance, en mettant des prêts, en mettant n'importe quoi, de rembourser de l'argent aujourd'hui, et personne ne compte pour rembourser. Nous, on a la chance, et c'est une chance exceptionnelle, hein, d'avoir tellement bien gazé dans les années précédentes que les investissements qu'on a faits, on les a remboursés. Donc, on n'a pas de traite à payer. Donc, l'argent qu'on nous donne, et on nous en donne, nous sert à payer les salariés. Mmh. Aujourd'hui, par exemple, la salle de musique, le propriétaire des murs, il ne veut rien savoir. Il dit que c'est 7 500 balles par mois. Nous, on en est à 70 000 euros de pertes sur une salle qu'on n'a pas le droit d'exploiter par décision administrative. Et en tout, on a touché 7000 balles d'un mois qu'on n'a pas payé. Ça, c'est la vérité. Alors évidemment, ça va paraître assez trivial de ne parler que d'argent et de choses. Mais nous, on est des producteurs avec des salariés. On respecte nos salariés. Ils sont payés. Aujourd'hui, on en est quand même à faire des salaires à des salariés pour qu'ils maintiennent leur niveau de vie. Des salaires qui, évidemment, ne correspondent pas à un travail puisqu'il n'y a plus de travail.
Oui, puis qu'ils soient là pour le redémarrage aussi, c'est important, évidemment, qu'ils soient là pour le redémarrage.
Mais nous, on n'est pas dans une vision poétique de la chose.
On a bien compris.
C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de respect pour les gens qui ont les petites salles, mais énormément de respect. On vit avec ces gens-là, on vit avec ces gens-là, on fait des prix aux gens qui ne peuvent pas payer la salle. Tout ça, ça marche ensemble, mais évidemment qu'on est solidaires. On n'est juste pas solidaires d'un espèce de discours, que je répète, bobo, qui dit quoi qu'il en soit, faisons de l'art dans la rue parce que la vie est belle. Arrête.
Mais ça on a compris. Ça on a bien compris, Eric. Non, bon, reste avec nous. Mais non, mais il faut entendre toutes les opinions. C'est bien, voilà. Tu vois, c'est la démocratie. Ouais. Bon, voilà. Eric, on va écouter Jack Lang que je suis allé voir avec Alex Burkhardt à l'Institut du Monde Arabe, lui aussi fermé pour cause de pandémie. L'institut, l'ancien ministre de la Culture. Qui comprend la colère des artistes et les occupations de théâtre. En tout cas, on lui a posé la question de savoir s'il comprenait. Voici sa réponse.
Je comprends la colère, je la partage. Mais je pense surtout aux artistes et aux créateurs qui, eux, sont pris à la gorge et mis en danger de plein fouet. Et leur souffrance est grande, leur désespoir est... évident. Alors, les autorités publiques ont réussi à apporter un certain soutien. Ce soutien, d'ailleurs, vaut plus pour les intermittents ou les institutions publiques. Malheureusement, il y a dans le milieu de l'art, du spectacle, de la musique, beaucoup de gens qui sont dans une situation précaire. Et malgré les efforts accomplis, ils connaissent une grande difficulté matérielle et morale.
Voilà, donc Jack Lang qui, effectivement, est un peu sur le même discours que ce que l'on a entendu depuis le début de l'émission. Il peut y avoir des aides, etc. Ça n'empêche pas qu'un certain nombre d'artistes sont en grande difficulté aujourd'hui. Ceux, par exemple, qui n'avaient pas les heures nécessaires de travail l'année précédente, etc., etc. Et on ne sait pas comment ça va se passer pour les prochains mois, puisque là, on est sur une année blanche, comme on a dit, et que personne n'a travaillé. Donc, c'est quand même très, très compliqué.
Pour l'instant, les annonces ne sont pas très... positive. Hein,
ouais. Mais on va en parler dans un instant. Je voulais qu'on écoute une deuxième partie de l'interview avec Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, qui doute d'une date. Le président de la République nous a dit réouverture le 15 mai. Bon, Je ne suis pas certain que Jack Lang soit totalement convaincu. On l'écoute.
L'ennui, c'est que au moment où nous parlons, nous ne savons pas exactement quand et dans quelles conditions aussi. Par exemple, j'apprends que la plupart des festivals de musique ont décidé de disparaître pour le temps de l'été, parce qu'ils ne peuvent pas conclure des contrats sous peine d'être désavoués par les circonstances. Oui. Disons que matériellement, ce n'est pas facile. Nous perdons les recettes des expositions ou des spectacles, mais il faut le dire honnêtement que la prise en charge, pour une part, par les autorités publiques, sous la forme du chômage partiel, de la rémunération d'une partie des personnes qui travaillent ici, contribue à nous permettre de passer le cap. Mais malheureusement, en même temps, le mécénat disparaît, puisqu'il n'y a pas d'activité. Voilà, donc c'est pas facile.
Voilà, c'est un peu le millefeuille des difficultés, hein, y compris donc sur l'aspect financier, comme le dit Jack Lang pour l'Institut du Monde Arabe. Éric, moi j'avais une question, parce que Jack Lang, au début de la deuxième interview, parle des festivals qui n'auront pas lieu cet été. Les uns après les autres, on apprend que les festivals sont à l'arrêt et n'auront pas lieu. Vous, par exemple, les Chevaliers du Fiel, vous produisez pas mal de spectacles à Avignon. Est-ce que Avignon aura lieu ou pas ?
Ben, on a un théâtre à Avignon qui s'appelle Le Paris, où il y a trois salles, qu'on a depuis 10 ans, qu'on a acheté et rénové sans l'aide de personne. Et aujourd'hui, c'est-à-dire on est le 15 avril, après maintes et moult promesses, à la fois du ministère, à la fois de la ville, de la région, on disait qu'au plus tard, au 15 avril, on nous dirait ce qu'il en est, on ne sait pas. En même temps, il faut être réaliste, le préfet du Vaucluse a appris très récemment qu'il y avait plusieurs spectacles par jour dans chaque salle, chose qui existe depuis 40 ans.
Incroyable. Donc la déconnexion de l'État. Hein, c'est...
Ouais. Ah oui, quand on sait ça, on se dit... Toi, par exemple, nous, aujourd'hui, pour dire aux gens, parce qu'il y a des gens qui pourraient avoir des doutes sur nos motivations. Par exemple, Avignon, cet été, nous, on est prêts, avec Francis, à aller jouer dans des demi-salles à perte. Il faut savoir que si on joue là, c'est évidemment à perte. Pour que ça existe et pour que le Festival d'Avignon existe et que le Paris existe et que le Off continue à exister. Donc on n'est pas du tout... on veut dire, c'est pas la bande à Madoff qui fait des affaires, c'est une réalité. Après, on a le droit de parler vrai. Et nous, quand on fait ça en vrai, on est prêt à faire ça. Mais pour autant, on ne sait même pas si on va pouvoir le faire parce que... Il me semble, mais bon, peut-être on n'en sait pas plus que les autres, mais il me semble que les normes sanitaires imposées aux gens de spectacle, aux musées, même au cinéma, sont absolument délirantes.
Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Les enjeux ne sont pas ce qui est décidé, c'est-à-dire que pourquoi ? Moi, on a la chance aussi de connaître quelques ministres et de parler, quand on parle de ça, ils nous disent en off, hein, ils nous disent « ouais, mais tu vois, si on autorise les théâtres, il faut autoriser les restaurants. Si on autorise les restaurants, il faut autoriser les boîtes de nuit. » En fait, c'est toujours des décisions un peu stratégiques, politiques, plutôt que...
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, ce retour des ministres, parce que, honnêtement, il y a cette tentation de laisser fermer. Non, mais c'est vrai, il y a des moments où je me dis, il y a cette tentation-là de la part des politiques.
J'en finirai, moi, parce qu'après, j'aurais dit tous mes arguments. Mais l'effet pervers de l'incroyable aide de l'État français... pour les artistes et les entreprises en général, les restaurants et tout ça. C'est que quand tu aides tout le monde, c'est absolument génial, tout le monde dit bravo, tout le monde dit merci. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il se passe aujourd'hui qu'il y a un certain nombre, par exemple à Avignon, il y a plus de 1000 spectacles par jour, il y a 150 théâtres, enfin bon, c'est un truc de fou. Eh bien, il y a quand même des petits théâtres qui gagnent plus d'argent à ne pas ouvrir qu'à ouvrir. C'est un fait.
Ah, mais oui.
On peut dire que c'est pas plus
mais de dire c'est ça, la même chose pour des restaurateurs. C'est la même chose pour des restaurateurs. Voilà. C'est vrai, tu as raison.
Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Le débat est au paroxysme de son intensité entre tout le monde, parce que tu as des gens qui ont des théâtres en disant « il faut que ça marche, il faut que ça fonctionne », et tu as des gens qui disent « oui, mais bon, enfin, on n'est pas pressé, il faudra voir », parce que ils sont aidés, et tant mieux pour eux. Franchement, nous, on est contents que tout le monde mange, mais ce n'est pas les mêmes intérêts. C'est ça que je voulais dire au début d'une manière un peu abrupte. Mais ce n'est pas les mêmes intérêts. Si tu en vis, si tu n'en vis pas, si tu as mis
Enfin, je ne sais pas, mais les gens ne se rendent pas compte. Mais mettre de l'argent dans la culture, c'est beaucoup d'argent pour peu de retour. Et si tu les as mis, c'est ton pognon. Quand c'est ton pognon, tu ne vois pas les choses pareilles. Tu dis, mais attendez, laissez-moi travailler.
Merci, merci Eric. C'était intéressant, avec évidemment, plaisir. D'avoir cette vision de ta part. Merci beaucoup, les Chevaliers du Fiel, qu'on va retrouver à la fin de cette émission.
Bonjour à Jean-Claude, qui, à mon avis, n'était pas en direct.
Non, mais il était là quand même. Et...
c'est à l'heure.
Et il t'embrasse. Hein, il t'embrasse. Sois pas médisant envers Jack Lang, s'il te plaît. Bon, merci en tout cas, les Chevaliers du Fiel. Et puis on va vous retrouver à la fin de l'émission pour un dernier sketch. On va terminer. Il nous reste 2-3 minutes d'émission. Le temps passe vite, 3 quarts d'heure déjà, hein, mine de rien. Comment vous voyez la réouverture? C'est un peu la question qu'on se pose là, maintenant. Parce que c'est vrai que. Est-ce que ça va être facile, pas facile? Je ne sais pas.
Normalement, il y aurait une progressivité de l'ouverture. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, c'est-à-dire.
Il y a déjà beaucoup de spectacles en attente.
Il y a des spectacles en attente.
On ne pourra pas tous les faire en même temps.
Il y a les spectacles annulés. Bon, là, le problème ne se pose plus.
Ouais.
Il y a les spectacles reportés. Ensuite, il y a les spectacles programmés. Donc déjà, les reportés, les programmés vont s'imbriquer. Pendant toute cette période, on nous a permis de répéter. Donc il y a plein de spectacles qui ne sont ni encore reportés ni encore programmés, mais qui vont grossir le stock des spectacles proposés. Et donc, comment on va faire? Donc, et avec ça, on nous propose une des demi-jauges d'ouverture possible, enfin une réouverture progressive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est réellement envisagé? Alors, est-ce que chaque spectacle sera programmé encore moins longtemps qu'il ne l'était? Donc, ça veut dire qu'un spectacle, on a un plan d'exploitation, pour reprendre les termes un peu d'entrepreneur de Monsieur Carrière. Voilà, c'est-à-dire que oui, il y a des contingences de production. Voilà, donc comment on va faire? Et là, c'est un peu un silence. On a un plan de relance qui n'en est pas un, vraiment, qui est, moi, j'appelle un peu un plan de relance du bâtiment, puisqu'on nous dit qu'on va rénover les salles. Donc, c'est bien pour les artistes. Mais ça, c'est dans très longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces productions qui sont faites pour un public?
Mathieu, voilà. Est-ce que vous êtes prêt à remonter sur scène demain?
Oui, moi je suis prêt.
Est-ce que la guitare a chauffé?
Cet après-midi, même si vous voulez. Ouais. Mais non, moi ce que je voudrais dire, c'est que.
Allez, on y va.
Il y a au moins un point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que la reprise à perte, ça ne sera pas possible. Donc c'est pour ça que nous, on est rentrés à l'Odéon. On a plusieurs revendications en
tant qu'occupant de l'Odéon.
Oui. Pas toutes, parce qu'on n'a pas eu le temps, mais oui. C'est pas grave. Mais notamment, une est un vrai plan de relance pour le spectacle, pour la culture, parce que justement, la reprise à perte, ça ne sera pas possible. Et donc, on interpelle le ministère sur ce point-là et sur d'autres, et on attend des réponses là-dessus, parce que tout le monde est d'accord que ça ne se fera pas à perte, la reprise. Donc, il faut financer l'emploi, il faut financer l'activité, il faut financer l'emploi pour que les choses soient possibles et qu'on puisse les faire.
Roselyne Bachelot, si tu nous entends, merci de faire un plan de relance.
Et surtout dire aussi que,
qui aille dans le bon sens.
La relance, elle doit se faire pour tous et toutes. Mmh. Et voilà, donc pour tous les métiers, aujourd'hui, il y a une réforme chômage qui est sur la table.
Et là aussi, qui va déshabiller un peu plus les intermittents du spectacle.
Donc, les intermittents et tous les précaires de l'emploi.
Ouais. Bon, le message est bien passé.
On n'a pas eu le temps. On va parler de quelques revendications.
On fera deux heures d'émission. Avec la CGT, il y a toujours beaucoup de revendications, j'ai remarqué, de toute façon. Donc, non.
Oui, on a
non,
des
merci,
et
en
de
tout
propositions,
cas.
Je dirais.
C'était un grand plaisir de vous avoir à nos côtés, bien évidemment. Merci d'avoir participé à ce numéro d'Habiter la France spécial Culture à l'arrêt. J'en profite pour signaler le livre de Jack Lang, puisqu'il est avec nous il y a quelques instants, Les mémoires de l'ancien ministre de la Culture. Une révolution culturelle. Alors, en plus, là, c'est vraiment le. C'est le livre qui n'était pas fini de corriger,
que
j'ai eu entre les mains, les épreuves, voilà. Et, non, mais c'est très intéressant parce que ce sont des fiches techniques et notamment les relations entre le ministre de la Culture de l'époque et François Mitterrand. Il y a des choses à découvrir absolument incroyables. C'était un peu tendu par moments entre les deux. Donc voilà, c'est assez intéressant.
Il y avait quand même une ambition qui était de faire une nouvelle civilisation et que la culture participe de la
D'ailleurs,
civilisation.
D'ailleurs, la culture était une volonté de François Mitterrand à l'époque.
Le désir de...
Et c'est pour ça qu'on a eu tout un tas de choses, évidemment. L'Opéra Bastille, et bien d'autres lieux que l'on aime aujourd'hui visiter et dans lesquels on aime aller écouter des concerts, effectivement.
Je voudrais juste terminer en disant que pour défendre toutes ces histoires, pour toutes et tous, là, pour la culture et pour le reste, on appelle à une manifestation le 23 avril à 14h au départ de la place d'Italie.
Et on y sera, nous aussi, les actrices et les acteurs.
Bon, donc, eh bien, écoutez, on reviendra.
Puis on invite nos camarades qui tiennent des structures à nous rejoindre.
Merci beaucoup. Éric Carrière, les Chevaliers du Fiel, donc, étaient avec nous. On le remercie également. Et on se quitte justement avec les Chevaliers du Fiel à la chasse. Et c'est pas triste, évidemment. Allez, émission à retrouver en podcast sur Radio Territoria. Habitez la France. À bientôt.
Là, où ça ? Là, ça a bougé. Tire, tire, putain, tire, Laisse-moi le. Raté. C'est de ta faute aussi, t'as vu comment t'es fringué là, hein? T'es au Tour de France ou à la chasse? C'est la faute à ma femme, elle m'a planqué les habits de chasse, il me reste que le Tour de France. Si je me retenais pas, je te trouverais toi aussi, hein? Arrête! Avec ce fusil, on vise pas les gens à la chasse. Tous les ans, il y a des morts à la chasse. Tu me prends pour qui? J'avais qu'un coup et je l'ai tiré, hein? Ah bon. Putain! Putain, mais t'es malade avec ton fusil, toi, hein?
Habiter la France, l'émission de tous les Français, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.